Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola.
Bien, nous allons commencer. Je suis content d'être de retour ici après un an d'absence et de retrouver beaucoup de visages familiers. Pendant cette année, j'ai beaucoup travaillé sur les images et c'est donc une suite des considérations que j'avais commencées sur les images que je vais vous proposer. Je vais donc reprendre dans le cours de cette année le chantier que j'avais commencé durant les cours de 2005-2006 et de 2006-2007 sur la question de la figuration. Abordé évidemment dans une perspective non pas d'histoire de l'art ou d'esthétique, mais dans une perspective anthropologique et largement comparative. Je vais m'arrêter un moment pour laisser les gens qui arrivent le temps de s'asseoir. Voilà, donc je reprends. Chantier de la figuration, et je voudrais d'abord rappeler que j'entends par figuration l'activité universelle et proprement humaine de production, de façonnage, d'aménagement, d'ornementation ou de mise en situation d'un objet ou d'un ensemble d'objets matériels, organiques ou inorganiques, en vue d'en faire une image fonctionnant comme un signe à la fois iconique et indiciel. Je reprends ici évidemment une distinction qui est propre à la sémiologie de Peirce. Que la figuration engendre des signes iconiques, cela paraît aller de soi. Si un signe figure un objet, c'est que l'interprétant est capable de repérer dans le signe des qualités qu'il reconnaît aussi à et dans l'objet, qualités qui lui permettent d'inférer que ce signe est bien une image de l'objet qu'il représente. La modalité iconique la plus intuitive est naturellement la ressemblance, soit la ressemblance à un type, une espèce animale ou végétale, une classe d'environnement, un genre d'artefact, soit la ressemblance à une singularité individuelle, le portrait de tel ou tel, la vue de tel ou tel endroit. Mais cette forme d'iconicité, qui nous est la plus familière, puisqu'elle constitue le principe directeur de l'art occidental depuis le XVe siècle jusqu'au début du XXe siècle, cette modalité d'iconicité est loin d'être la plus répandue, dans le monde en tout cas, et dans l'histoire. Il peut arriver par exemple que l'icône figure un objet que personne n'a jamais vu, généralement une divinité, à qui sont imputées des qualités dont la reconnaissance dans une image est tributaire de l'identification de cette image au prototype qu'elle figure. Et ces qualités peuvent très bien n'être pas visuelles ou morphologiques. Ainsi en est-il, par exemple, des bolis. Les bolis, ce sont des images qui sont utilisées dans un culte qui était jadis commun dans la vallée du Niger, chez les Bamana, les Minyanka, les Bois et les Bobos. Un boli, eh bien, c'est une image littéralement informe. Celui-ci est au musée du Quai Branly. Et il y a d'ailleurs une exposition sur les fétiches en ce moment, où il figure de façon proéminente, que je vous invite à voir si vous vous intéressez à ces questions. Un boli, donc, comme celui-ci l'indique, est littéralement informe. C'est un objet qui est constitué d'une armature de bois et de centaines de fragments, des os, des racines, des griffes, des fils de coton noués. Le tout est recouvert de terre séchée provenant de termitières, de cire d'abeille et d'une croûte de sang sur laquelle on a craché des débris de feuilles mâchées. En Bamana, nous dit Jean-Paul Collen, qui commente ce boli en particulier, le mot boli désigne, je le cite, un objet qui protège et attaque. Chargé d'une force irradiante souvent agressive, le nyama, il est craint et il fait l'objet de nombreux interdits. Aux yeux des adeptes du culte du Boli, il est vain d'essayer de définir clairement une puissance dont la force est précisément de revêtir des formes multiples, et il ajoute dont la force est précisément de se défigurer et de se refigurer sans cesse. Donc le Boli est littéralement, au sens propre, une idole, c'est-à-dire c'est un objet à la manière d'une image, eidolon, qui donne à voir une autre réalité, laquelle n'a pas de forme propre. Cette masse informe est ainsi la figuration iconique d'une puissance, non pas au sens où elle ressemble à cette puissance, puisque cette puissance n'a elle-même pas de forme stable, mais au sens où elle rend tangible certaines qualités qui sont imputées à cette puissance. Le Boli donc représente, non pas au sens où il dépeint de façon réaliste un prototype, mais au sens où l'on dit d'un diplomate qu'il représente son pays. Autrement dit, une figuration iconique n'est pas nécessairement une figuration mimétique, en ce que les indices de reconnaissance qu'elle propose peuvent être si ténus qu'ils ne permettent pas une identification spontanée et qu'ils requièrent un mode d'emploi ou des informations additionnelles. C'est le rôle, par exemple, que joue souvent le titre d'un tableau dans l'art dit non figuratif. Il indique ce titre là où les qualités que l'image figure, et si le spectateur identifie correctement la qualité suite à cette indication, alors il s'agit bien d'une figuration iconique et non pas d'une pure symbolisation. Il s'agit donc en fait, et contrairement aux apparences, d'un art figuratif. Pour qu'il y ait figuration et non simple mimésis, il faut donc que les images fonctionnent comme des signes iconiques, mais il faut en outre qu'elles fonctionnent comme des signes indiciels, c'est-à-dire interprétables, non plus seulement en fonction d'une similarité de qualité avec l'objet dénoté, mais aussi en vertu de la connexion directe que les images évoquent entre l'objet dénoté et l'essence ou la mémoire de la personne pour lesquelles elles servent de signe. L'image n'est plus alors seulement quelque chose qui présente une ressemblance plus ou moins facilement interprétable avec un prototype. Elle est, par contiguïté avec les désirs et avec les aspirations de ceux qui l'ont fabriquée ou qui l'ont utilisée, comme elle-même dotée d'une autonomie et d'une capacité à agir dans lesquelles trouve sa source la fascination qu'elle exerce sur nous. Cette idée a été développée avec une grande force persuasive par Alfred Gell dans son maître-livre de 1998, Art and Agency, dans lequel il soutient que l'art ne doit pas être abordé comme un système symbolique comparable à un langage, mais, je le cite, comme un système d'action destiné à changer le monde, et qui est en mesure de le faire parce qu'il rend plausible le fait que les images paraissent dotées d'une agence, c'est ma traduction pour l'anglais agency, c'est-à-dire d'une disposition à l'action intentionnelle. Autrement dit, selon Alfred Gell, une image est un indice de la présence d'une agence sociale parce qu'elle permet à la fois d'inférer les intentionnalités qui ont accompagné sa fabrication et de la voir elle-même, à la suite de ce processus inférentiel, comme un agent intentionnel doté d'une efficacité propre dans le domaine social. Alors, Gell, on le sait, et j'ajoute d'ailleurs que ce livre qui est très important et qui était demeuré sans traduction en français va bientôt être publié en français, ce qui est une très bonne nouvelle. Gell a donné un grand retentissement à cette conception de l'image comme agent intentionnel, notamment parce qu'il a eu le mérite tout à la fois d'en explorer systématiquement les conséquences et d'en préciser les conditions cognitives de fonctionnement. Mais, de fait, l'idée en elle-même n'est pas nouvelle. On la trouve, par exemple, dès 1920, sous la plume de Max Verworn, qui était un physiologiste, mais un de ces physiologistes, on dirait maintenant probablement un spécialiste de sciences cognitives, qui s'intéressait à tous les aspects de la psychologie et des mécanismes neuraux et aussi à la préhistoire de l'art. Et dans son livre « Die Anfänge der Kunst », les commencements de l'art, il écrit « Kunst im allgemeinsten Sinne ist, wie das Wort schon sagt, eine Können ». L'art, dans son sens, dans un sens général, est comme le mot le dit déjà, un pouvoir, donc le jeu sur le Kunst et Können. David Friedberg a développé une idée tout à fait analogue dans son livre de 1989, The Power of Images, et on la trouve également développée dans d'autres livres, en particulier d'un autre historien de l'art américain, W.G.T. Mitchell, dans son livre What Do Pictures Want? Ainsi conçu, l'agence, la disposition à l'intentionnalité ou à la causalité intentionnelle dont on crédite les images, est une notion purement relationnelle, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de contenu ontologique intrinsèque. Tout ce qui est en position d'agent vis-à-vis d'un patient, une image par exemple vis-à-vis d'un spectateur, exerce une agence déléguée parce que cet objet constitue une sorte d'interface matérielle entre des intentionnalités réelles ou supposées, que celles-ci soient imputées, ces intentionnalités, au créateur humain de l'image ou aux entités non humaines qu'elles représentent ou qui sont réputées en être la source. Mais le fait que l'image, en tant que signe indiciel, se dérobe à toute caractérisation ontologique de son essence, autrement dit, le fait qu'elle ne puisse pas être distinguée d'autres sortes d'artefacts par des propriétés symboliques qui lui appartiendraient en propre, ne signifie pas pour autant qu'elle ne puisse pas être révélatrice de propriétés ontologiques plus générales. Et l'hypothèse qui sert de fil directeur à ce cours et aux travaux que je mène depuis maintenant deux ans, un peu plus de deux ans sur cette question, est précisément que certaines images révèlent à la fois dans leur contenu et dans une moindre mesure dans leur organisation formelle des systèmes de qualité prêtés aux objets du monde, autrement dit des ontologies, et que c'est par ce mécanisme de dévoilement et d'incorporation de l'armature invisible du réel que se caractérise au premier chef la figuration. Alors j'ai dit certaines images seulement, car je m'empresse de l'ajouter, toutes les images ne rendent pas visibles des propriétés ontologiques. Un bon nombre d'entre elles ont des fonctions particulières et donc des propriétés formelles universelles qui les rendent aptes à remplir ces fonctions. C'est le cas par exemple des pictogrammes, c'est le cas des blasons, c'est le cas des graffitis, c'est le cas des rébus entendus au sens large, et c'est le cas aussi de toutes ces compositions non figuratives qui fonctionnent comme des pièges à penser. Les images qui relèvent de la figuration ontologique ont ceci de particulier que l'on parvient en général à repérer en elles un jeu subtil sur les rapports entre la matérialité et l'intériorité des objets représentés, rapport qui se décline en un nombre restreint de formules correspondant à autant de façons de percevoir des continuités et des discontinuités entre les choses. Dans des travaux antérieurs, j'ai montré, en effet, que les diverses manières d'organiser l'expérience du monde, individuelle et collective, peuvent être ramenés à un nombre réduit de ce que j'ai appelé des modes d'identification correspondant aux différentes façons de distribuer des propriétés aux existants, c'est-à-dire de les doter ou non de certaines aptitudes les rendant capables de tel ou tel type d'action. L'identification est fondée sur les diverses possibilités d'imputer un aliude indéterminé, je préfère le terme aliude à alter parce qu'il est justement indéterminé, une physicalité et une intériorité analogue ou dissemblable à celle dont tout humain fait l'expérience. Et cette identification, résultat de ce processus, peut donc se décliner en quatre formules ontologiques. Je les rappelle brièvement, je les ai déjà longuement commentées. Dans la nôtre, l'ontologie que j'appelle naturaliste et qui domine en Occident depuis l'âge classique, les humains se distinguent du reste des êtres et des choses car l'on dit qu'ils sont les seuls à posséder une intériorité, un esprit, une âme, une subjectivité, bien qu'ils se rattachent aux non-humains par leurs caractéristiques matérielles, et notamment les éléments et les processus physico-chimiques de leur organisme. Dans l'ontologie que j'ai appelée animiste, en Amazonie, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et de la Mélanésie, c'est l'inverse qui prévaut. Autrement dit, bien des animaux, des plantes, des objets, des artefacts, sont réputés avoir une intériorité semblable à celle des humains, mais ils se distinguent tous les uns des autres par la forme de leur corps. Dans l'ontologie totémique, troisième formule, et au premier chef parmi les aborigènes australiens, certains humains et non-humains partagent à l'intérieur d'une classe nommée les mêmes qualités physiques et morales issues d'un prototype, tout en se distinguant en bloc d'autres classes du même type. Et enfin, dans le dernier type d'ontologie, que j'ai appelé analogiste, tous les occupants du monde, y compris leurs composantes élémentaires, sont dits différents les uns des autres, raison pour laquelle on s'efforce de trouver entre eux des rapports de correspondance. C'est le cas, pour donner des exemples géographiques, de la Chine, de l'Europe de l'Antiquité et du Moyen-Âge, de l'Afrique de l'Ouest, du monde andin et méso-américain, indigène, etc. Mon objectif, donc, il est de rendre visible, de mettre en lumière comment chacune de ces quatre ontologies parvient à figurer. Quels sont les modes de figuration qui correspondent à chacune de ces quatre ontologies, c'est-à-dire comment elles parviennent, ces ontologies, à rendre présents et actifs dans des images les qualités qu'elles distinguent, les types d'entités qu'elles permettent de discerner dans le monde et les relations que ces entités nouent entre elles et les propriétés qui leur sont associées. Alors, je vais aujourd'hui rappeler brièvement les caractéristiques figuratives de chacune de ces modes d'identification, de ces modes de figuration maintenant, en insistant un peu plus sur l'animisme, puisque j'y avais consacré le cours de 2006-2007. L'animisme, je le rappelle, c'est la généralisation donc au non-humain d'une intériorité de type humain combinée à la discontinuité des corps et donc des perspectives sur le monde et des façons d'habiter le monde. Donc figurer une ontologie de ce type, c'est rendre visible l'intériorité des différentes sortes d'existants et montrer que cette intériorité se loge dans des corps aux apparences dissemblables, mais identifiables sans équivoque par des indices d'espèce. Donc je vais rappeler brièvement quelques façons de réaliser cet objectif sur lesquelles donc, je m'étais plus particulièrement attardé lors d'un cours précédent. Une première façon consiste à mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler l'âme des bêtes. On rencontre très souvent, en régime animique, des images composites où sont conjoints des éléments anthropomorphes évoquant l'intentionnalité humaine et des attributs spécifiques à des animaux, à des esprits, voire à des plantes. Les images les plus courantes étant celles qui comportent des indices ténus d'humanité, des traits du visage par exemple, greffés sur des formes thériomorphes. Les cas les plus exemplaires, ceux que j'ai pris pour des raisons pédagogiques, sont les masques Yupik d'Alaska. Vous voyez celui-ci dans lequel l'intériorité est insérée dans le front. Celui-ci, c'est une paire de masques associés, puisque c'est le grizzly et l'ours noir, mais l'intériorité n'est pas située au même endroit dans les deux cas. Ici, il est intéressant puisque l'intériorité est coextensive au corps animal, selon l'inclinaison que l'on donne au masque. C'est soit on renverse la tête et on a un plongeon ou un canard, je ne sais pas exactement, ou soit on la bascule et on a un masque qui évoque un humain. Celui-ci est intéressant dans la mesure où il est redoublé. On a d'un côté une intériorité figurée par un visage qui est lui-même redoublé, mais ce qui est redoublé aussi, c'est l'humanité avec des membres humains. Il est vrai que caractériser l'intériorité de clams, c'est-à-dire donc une espèce de grosse moule, n'est pas toujours très facile. Une autre façon de figurer l'intériorité des animaux dans l'ère circumpolaire, toujours, c'est la miniaturisation. Chez les Esquimaux du Canada, comme chez les Tchouktches en Sibérie, on trouve des figurines de très petites dimensions, sculptées avec une grande économie de moyens, tout en étant d'une ressemblance absolument saisissante, notamment par le rendu du mouvement, figurines qui représentent pour l'essentiel des animaux. Et la très petite taille des figurines est un moyen de figurer l'intériorité de l'animal, son âme tarnique en Inuktitut, c'est-à-dire qu'elle, c'est cette intériorité de l'animal qui est décrite comme un minuscule modèle réduit de l'être, soit humain, soit non humain, qu'elle anime. Donc lorsque l'on a cette figure réduite, on manipule une âme et on manipule aussi le modèle réduit qui est la base, en quelque sorte, le prototype, la source de l'organisme que cette figurine représente. Vous en avez ici deux exemples. Alors, c'est des exemples anciens, parce que c'est la culture de Dorset, et ceux-là sont de la culture de Thulé. Mais on en trouve aussi des exemples tout à fait contemporains. Vous voyez notamment ces animaux aquatiques, comment avec une très très grande simplicité, on arrive à donner l'impression d'une intentionnalité, c'est-à-dire tout simplement en figurant un mouvement, une dynamique en quelque sorte du mouvement, qui donne tout à fait le sentiment qu'il y a derrière cet objet matériel une intention qui se déploie. Ces amulettes servaient aussi à opérer des métamorphoses et des amplifications du fait du dynamisme ontologique prêté dans les cultures esquimaux au changement d'échelle et servaient aussi à figurer des relations avec les esprits des animaux et avec leurs gardiens. Deuxième modalité plus exactement de la figuration animique qu'on pourrait appeler qui se cache dans ce corps. Lorsque les âmes, les intériorités, peuvent adopter l'apparence qu'elles souhaitent donner d'elles-mêmes, on n'est évidemment jamais sûr de l'identité réelle de la personne qui se dissimule à l'intérieur du vêtement corporel que l'on perçoit. Un carnassier, par exemple, peut habiter un paisible caribou. C'est ce que ce masque Yupik indique. Vous avez d'un côté un caribou, mais qui est quand même un peu suspect parce qu'il a des dents qui dépassent, et de l'autre un morse. Et selon le côté où on le regarde, on passe du morse, qui est un animal prédateur, au caribou, qui est un paisible herbivore. Autre possibilité, on peut faire montrer l'esprit. Que l'esprit ours d'un chaman va laisser transparaître des esprits auxiliaires qui lui servent d'assistant. Alors, il y a une très belle figuration, c'est un masque Tlingit, dans lequel les loutres paraissent sortir, en quelque sorte, un peu comme des vers d'un fruit. Et en réalité, il ne s'agit pas d'un être composite, il s'agit de la figuration d'un congrès, d'une cohabitation entre des êtres distincts, mais qui sont en connexion, en collaboration, mais non confondus. Les masques à transformation de la côte nord-ouest, bien connus, ou les masques mi-animaux, mi-humains, vont plus loin, en ce sens que, assez souvent, ils donnent à voir une métamorphose, c'est-à-dire un changement de point de vue. Sous un angle, l'être figuré est un animal, sous un autre, c'est un humain. Un exemple classique, c'est un masque Haïda à transformation. Certains d'entre eux sont encore plus complexes puisqu'il y a trois figures emboîtées les unes dans les autres, mais quand on l'ouvre, on passe du corbeau à l'intériorité humaine de l'esprit corbeau. On a la même chose ici, c'est un masque de Yupik de chaman, où on voit bien la figuration de l'intériorité prédatrice qui est à l'intérieur de l'animal. Un exemple intéressant, c'est celui-là, je l'avais déjà présenté, puisqu'il vient d'une toute autre ère culturelle. C'est un masque Ma Betisek qui vient de Malaisie. Les Ma Betisek sont des gens qui vivent dans les marais de Selangor, et on trouve le même principe dans une société qui est tout à fait typiquement animique, puisqu'elle a été très bien décrite par Wazir Jahan Karim. Et vous voyez, la division là est latérale. D'un côté, c'est un humain, de l'autre, c'est un tigre. Et ça permet évidemment d'évoquer très facilement la métamorphose d'un, en l'occurrence d'un chaman, en son esprit auxiliaire. Enfin, dans l'art inuit contemporain, les sculptures à transformation, dites à transformation, sont très communes. Elles ont beaucoup de succès, elles se vendent bien sur le marché de l'art international et elles jouent précisément sur ces métamorphoses. On voit une qui est assez classique. Ça aussi, c'est une femme chamane. Vous voyez les longues tresses et en même temps, bœuf musqué. Une troisième modalité de figuration de l'animisme, c'est ce qu'on pourrait appeler les panse-bêtes. Certains masques Yupik rendent manifeste une thématique qui est tout à fait récurrente dans l'archipel animique circumpolaire et qu'on pourrait appeler « garder les animaux à l'esprit ». C'est très net dans les masques asymétriques ou dans des animaux miniatures figurant des pensées de chasse qui sont disposés tout autour d'un œil écarquillé, tandis que l'autre œil, à demi-clos, n'accueille aucun ornement. Vous voyez ici un exemple. Avec un exemple qui est encore plus frappant, alors, parce que là, les animaux sont entièrement disposés tout autour du visage. Donc là, vraiment, on a beaucoup d'animaux à l'esprit. Et une autre façon de garder les animaux à l'esprit dans l'ère circumpolaire, c'est la manipulation de ces figurines animales que j'ai montrées tout à l'heure. Le grand réalisme du mouvement, l'extrême minutie de ces effigies miniatures, invite à les considérer comme des incorporations matérielles de pensées au sujet des animaux. On s'en sert d'ailleurs très souvent sur les vêtements, comme à la fin d'un lacet, par exemple. Donc, elles sont constamment accessibles. Et elles sont si microscopiques qu'on peut les retourner dans la main comme on retourne d'une certaine façon une image dans sa tête. Emmener avec soi des figurines animales pour un chasseur, c'est donc non seulement avoir en permanence des animaux à l'esprit, c'est aussi s'en servir comme des relais matériels dans la relation continue qu'il doit maintenir avec les esprits du gibier, dont la générosité assure aux humains un approvisionnement régulier en viande. Finalement, porter sur soi ou sur ses armes, parce que assez souvent ces figurines sont aussi attachées aux armes, des figurations d'animaux revient à s'attirer les bonnes grâces de l'animal et des esprits qui les protègent. On en trouve des exemples jusque sur les casquettes de chasse qui sont communes dans la zone Yupik et sur l'île de Kodiak et dans les Aléoutiennes. C'est une casquette qu'on revêt donc lorsqu'on va chasser en mer. Et vous voyez que ces petites figures, ce sont soit des animaux aquatiques, soit des morses, qui sont évidemment près à la périphérie du champ de vision, pourrait-on dire, et que l'on doit garder à l'esprit. Et on voit ça aussi dans les dessins contemporains. Celui-ci, par exemple, on voit les animaux qui sont de part et d'autre des yeux. Là aussi, garder les animaux à l'esprit. Et enfin, il faut signaler que les esprits aussi gardent les animaux à l'esprit, si l'on peut dire. Voilà un masque. Et on le voit mal ici, mais sur les deux volets latéraux, on a des caribous qui courent et dont je n'ai pas vu le masque, mais d'après la légende, ils sont en train de déféquer. Donc on garde aussi, et c'est un esprit Tungak, il garde à l'esprit les animaux. Quatrième manière de décliner la figuration animique, c'est emprunter les corps animaux. Dans une autre partie de l'archipel animique, en Amazonie en particulier, les Indiens ont manifesté moins d'intérêt pour fabriquer des images réalistes de corps humains ou animaux à la ressemblance de modèles, et ils se sont plutôt attachés à transformer les corps humains eux-mêmes en images, en empruntant pour ce faire des motifs et des attributs aux corps animaux. Et cet emprunt revêt un caractère très particulier, car ajouter au corps humain des pièces animales, des plumes, des duvets, des dents, des pelages, des os, des griffes, des élytres, des écailles, etc., ne relève pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de la simple ornementation ou de la volonté d'imposer le sceau de la culture sur un corps qui serait trop naturel. Par ce biais, par l'emprunt d'attributs animaux, les Indiens cherchent à retrouver la plénitude physique d'un temps disparu. En effet, avant la spéciation physique, j'entends bien, dont les mythes retracent les circonstances, tous les êtres vivants avaient, semble-t-il, un même type de corps, conçu par analogie dans ce que les mythes nous disent avec celui des humains, mais combinant l'ensemble des capacités à présent répartis entre les différentes espèces. De sorte que, en récupérant sur le corps des animaux certaines des dispositions d'un corps originaire qu'ils ont eux-mêmes perdu, les humains cherchent à capter à leur profit une parcelle de l'expérience du monde que d'autres espèces mettent en œuvre grâce à leur physicalité particulière. En revêtant un costume animal, ou une partie d'un costume animal, les humains empruntent donc aux animaux leurs aptitudes biologiques et ils leur empruntent donc l'efficacité avec laquelle ces derniers, les animaux, tirent parti de leur environnement. Donc les parures animales des Indiens d'Amazonie contribuent ainsi à ce qu'on pourrait appeler la surnaturalisation d'un corps à la physicalité qui est beaucoup trop spécialisée, afin que ce processus de surnaturalisation permette aux humains de retrouver la polyvalence physique que la spéciation leur avait fait perdre. Alors, vous avez des exemples ici. Alors, j'en ai choisi deux, ils sont assez caractéristiques parce qu'elles sont notable par le très grand nombre d'espèces d'oiseaux qui sont utilisés dans les deux cas. Plus il y a d'espèces d'oiseaux, évidemment, plus on emprunte à un registre large d'espèces animales et plus on capture, en quelque sorte, d'attributs biologiques d'autres espèces. Cette parure baniwa, qui a l'air très simple vue ainsi, est composée d'une quinzaine d'espèces d'oiseaux, enfin de plumes appartenant à une quinzaine d'espèces d'oiseaux différentes. Dernière caractéristique de la figuration endémique, c'est ce qu'on pourrait appeler se camoufler en esprit. Les humains ne se contentent pas de prélever sur les animaux des appendices, ils leur empruntent aussi des images, à savoir les motifs qui ornent les corps des diverses espèces et dont les Amérindiens se servent pour décorer leur propre corps. En effet, tous les existants qui occupent une position de sujet, animaux compris, arborent des peintures corporelles qui servent à marquer des statuts ou des états particuliers, la maternité, la paternité, le deuil, la maladie, etc. Or, les motifs que les humains voient habituellement sur les corps des animaux, des taches, des ocelles, des bandes, des écailles, sont perçus par les congénères de ces animaux comme des peintures corporelles sur un corps humain, puisque, je le rappelle, les animaux, en régime animique, se voient en général eux-mêmes comme des humains. Autrement dit, ce que les congénères des animaux voient sur le corps de leurs congénères, ce sont des dessins géométriques, plus ou moins complexes, ayant une fonction héraldique. Et les humains qui souhaitent être vus par des animaux comme des membres de leur collectif, qui souhaitent donc s'affilier de manière plus ou moins clandestine ou discrète à un collectif animal, ne se peignent donc pas tels qu'ils, les humains, voient ces motifs, mais tels qu'ils pensent que les animaux eux-mêmes les voient, c'est-à-dire comme des dessins aniconiques, comme des emblèmes héraldiques. Vous avez un bon exemple ici, avec un homme Yanomami peint en jaguar et qui de ce fait arbore non pas un camouflage de jaguar mais c'est un camouflage ontologique, non pas un camouflage physique, en ce sens que il passe aux yeux des jaguars, puisqu'il porte les peintures héraldiques des jaguars, pour un jaguar, puisque les jaguars eux-mêmes se voient comme des humains. Il en va de même pour les masques-costumes amazoniens, qui sont vus comme les habits des esprits. En revêtant un tel costume, un humain se fait reconnaître comme un congénère par une classe d'esprits au sein de laquelle il reçoit une affiliation temporaire. Et c'est une façon finalement différente d'établir un rapport entre image matérielle et image mentale que celle qui accourt dans l'ensemble esquimau qu'on vient de voir. Non pas au moyen de masques, au moyen de figurines réalistes, permettant d'objectiver une relation avec les animaux et de la revivre par la pensée ou en public dans un rituel, mais sous la forme d'un déclencheur de visualisation mentale, non directement mimétique, permettant de passer auprès de membres d'autres espèces pour ce que l'on n'est pas vraiment. Donc, là encore, il s'agit d'un camouflage ontologique. Voilà, ici, un masque-costume Waouja dans le Xingu. Passons maintenant à la figuration naturaliste sur laquelle je vais plus particulièrement m'attarder cette année. La formule du naturalisme, je le rappelle, elle est inverse de celle de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leur esprit que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se différencient entre eux, par paquets, grâce à la diversité des réalisations que leur intériorité collective, Volksgeist, autorise en s'exprimant dans des langues et dans des cultures distinctes. Quant au corps, eh bien, ils sont tous soumis au même décret de la nature et ils ne permettent pas véritablement de singulariser des genres de vie, comme c'était le cas dans l'animisme. Donc les deux traits qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit objectiver, doit rendre présents, sont l'intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène. C'est exactement l'inverse des finalités figuratives de l'animisme. Et ces deux objectifs ont reçu un début de réalisation dans la peinture flamande dès le XVe siècle. Ce qui caractérise la nouvelle façon de peindre, qui est née en Bourgogne, qui est née en Flandre, à cette époque, c'est l'irruption de la figuration de l'individu. D'abord dans les enluminures, où apparaissent des personnages avec des traits réalistes, dépeints dans un cadre réaliste, en train de réaliser des actions de type des activités réalistes, puis dans les tableaux caractérisés par la continuité des espaces représentés, par la précision avec laquelle les moindres détails du monde matériel sont rendus, et par l'individuation des sujets humains, dotés chacun d'une physionomie qui lui est propre. Donc la révolution qui se produit alors dans l'art de peindre, en une trentaine, une quarantaine d'années, installe durablement en Europe une manière de figurer qui choisit de mettre l'accent sur l'identité individuelle, tout à la fois de l'icône, du prototype, de l'artiste et du destinataire, une manière de figurer qui se traduit par une virtuosité sans cesse croissante dans deux genres inédits, la peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité comme indice de la singularité des personnes humaines, et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et décrit pour lui-même. Alors, il y a quelque chose de très particulier dans la figuration analogiste, c'est qu'elle est traversée, elle est marquée par un mouvement, il ne s'agit pas d'ailleurs de la figuration en général, l'ontologie naturaliste, par un mouvement historique très net qui résulte d'une tension entre l'intériorité et la physicalité qui est propre au naturalisme et qui voit l'intériorité, c'est-à-dire la singularité de la subjectivité humaine, s'affirmer au début de façon éclatante, dès avant la Renaissance, puis s'affaiblir, se dissoudre progressivement au fil du temps pour laisser place à l'universalité de la physicalité, c'est-à-dire pour laisser place à cette idée que la conscience n'est finalement qu'une propriété émergente de mécanismes neuraux. Et on voit cela, c'est un mouvement que l'on voit se produire progressivement dans les images aussi. Dans le domaine des images, ça se traduit par ce qu'on pourrait appeler un processus d'immanentisation. En effet, la conception chrétienne de l'image, qui voit dans celle-ci une empreinte et un succédané d'un modèle divin, transcendant et irreprésentable, subit une inflexion à la Renaissance, en ce que le modèle de perfection commence à être rapatrié dans l'intériorité de subjective humaine, et puis devient progressivement immanent. Mais cet idéal de l'harmonie intérieure finit par perdre sa fonction rectrice pour disparaître en grande partie dans le dernier tiers du XIXe siècle, où il cède la place à une physicalité autoréférentielle dont les images ne sont plus que la monstration. Donc dans cette longue transition, je crois qu'on peut repérer quatre périodes qui sont chacune scandées par plusieurs termes. Encore une fois, j'y reviendrai longuement dans le cours de cette année. La première période, c'est l'émergence du sujet dans un monde devenu objectif, c'est le 15e et le début du 16e siècle, période qui est caractérisée par une figuration. Le début d'une figuration réaliste du monde, d'abord dans les enluminures et les livres d'heures. Là, un exemple très caractéristique de Fouquet, notez la date, 1458, c'est très tôt quand même. Une grande maîtrise déjà dans ce qu'on appelait la perspective à la française, qui n'est pas la perspective monofocale. Ça, c'est un peu plus tardif, mais c'est une enluminure extrêmement connue, d'une précision extraordinaire dans le détail des objets et des situations. Ce qui est caractéristique aussi, c'est la maîtrise de l'espace, le goût du détail. Tableau classique, là, c'est un tableau de Campin avec les deux volets d'un diptyque. Le volet central n'est pas figuré. Les donateurs d'un côté et Saint-Joseph de l'autre, avec tous les détails extrêmement précis de l'office du menuisier. Et puis les traits très individualisés des deux donateurs. 1418-1432, c'est aussi très tôt. Bon, ça c'est un grand classique, bien sûr, la Vierge au chancelier Rollin, qui témoigne déjà d'une maîtrise extraordinaire dans l'organisation de l'espace et dans le rendu de l'individualité du chancelier Rollin. Mais aussi des tableaux qui mettent l'accent sur la pertinence de l'ordinaire. Celui-là, par exemple, c'est le tableau de Quentin Metsys. Alors, c'est un tableau de vanité, bien sûr, parce qu'il vise à critiquer la cupidité. Mais derrière cette fonction critique, on sent le détail, le réalisme dans la figuration de l'environnement et des objets de la vie courante. Ce qui est caractéristique de cette époque, c'est que dans tous les cas, les représentations réalistes de la vie quotidienne sont encore finalement asservies à un objectif de type supérieur, de type analogiste, hein, c'est-à-dire c'est des répertoires de situations, des attributs de personnages célèbres, des évocations des vices et des vertus, et puis évidemment des tableaux représentant des épisodes de l'histoire chrétienne. Donc ces représentations réalistes sont en quelque sorte un à côté. Elles ne sont pas le principe d'organisation de l'image. Hein. Elles sont une conséquence d'une intention figurative qui est encore différente. Donc on est dans une période de transition. Ce qui est caractéristique aussi à cette époque, c'est la figuration le désir de la figuration d'intériorité. On l'a vu dans plusieurs exemples jusqu'à présent. Ce sont les premiers portraits véritablement réalistes, celui-ci de Jan Provost, enfin attribué à Provost. Et c'est aussi non seulement donc la singularité des humains figurés, c'est la singularité des humains qui figurent. On a les premiers autoportraits de peintres à l'époque, et notamment celui qui est réputé être le premier autoportrait dans l'histoire de la peinture. Je ne sais pas si c'est... Je ne suis pas historien de l'art. Bon. C'est celui de Fouquet dans le diptyque de Melun. C'est un petit émail peint sur cuivre avec un très grand réalisme. En tout cas, on distingue véritablement, on voit la singularité de la physionomie de Fouquet. Deuxième période, c'est ce qu'on pourrait appeler le règne de l'immanence. C'est, pour moi, rendu exemplaire par la peinture hollandaise au XVIIe siècle. La subjectivité devient en partie anonyme, c'est-à-dire que la peinture de genre, d'individu, dans un rapport intersubjectif se développe, mais les rapports entre ces individus deviennent difficiles à déchiffrer. Par contraste avec les portraits, ce qui frappe dans ces tableaux, c'est non seulement donc les rapports intersubjectifs entre les éléments du tableau, mais c'est la latitude laissée au spectateur pour interpréter ces rapports intersubjectifs. Alors, les tableaux qui le montrent le mieux sont les tableaux de Pieter de Hoorc et de Gerard ter Borch, par exemple celui-ci, la leçon de lecture. Alors, en première approximation, c'est effectivement une leçon de lecture. L'enfant lit, la femme, on ne sait pas si c'est sa mère, une grande sœur, une gouvernante, on ne sait pas véritablement à quoi elle pense, et très rapidement, finalement, les liens entre les personnages deviennent difficiles à déchiffrer. On ne sait en particulier pas du tout à quoi pense cette femme lorsqu'elle écoute l'enfant lire. Deuxième caractéristique de ce que j'ai appelé le règne de l'immanence, c'est ce qu'on pourrait qualifier de une certaine tendresse pour le réel. C'est la peinture de genre, par exemple, d'espace domestique, où excellent Gérard Doux, Fabricius, Pieter de Hoorc et Hoogstraten, en particulier celui-là, qui est tout à fait caractéristique. C'est un intérieur non pas modeste, mais enfin qui n'est pas un intérieur riche. Et finalement, il y a une virtuosité extraordinaire dans la représentation d'espace. Et le centre du tableau, c'est une paire de pantoufles. Ça se caractérise aussi par la peinture réaliste des animaux. et en particulier d'animaux exotiques. Vous voyez la différence qu'il y a. Alors, j'ai pris là des autruches, mais Peter Ball a fait aussi des aras, beaucoup d'animaux qu'il a exotiques et qui, évidemment, tranchent la façon dont l'animisme rend les caractéristiques des espèces. C'est enfin le sens du détail, notamment, bien évidemment, dans les natures mortes, dans les trompe-l'œil, etc. Dernière caractéristique de ce que j'appelle le règne de l'immanence, c'est le monde, on dépeint le monde, on figure le monde tel qu'il est, ici et ailleurs. Alors ici, bon, le tableau de paysage classique, une marine par exemple, comme celle de Van Goyen, mais aussi ailleurs, c'est les premiers tableaux de paysage du monde exotique. Et ici, c'est un tableau qui date du voyage en Amérique du Sud de Franz Post, avec un cabiai que vous pouvez distinguer au premier plan. Donc ce sont les premiers tableaux de paysage qui viennent inscrire en quelque sorte le monde exotique, le monde en l'occurrence animique, si on peut dire, à l'intérieur des cimaises mentales de l'art européen. Troisième étape, c'est ce qu'on peut, de cette figuration naturaliste, c'est ce qu'on pourrait appeler la naturalisation en marche. Et il me semble que le XVIIIe siècle est très représentatif de cette période, en ce sens que les continuités, l'insistance sur les continuités physiques commence à l'emporter sur le souci de la figuration de l'intériorité. L'homme devient un animal comme les autres, et la figuration anatomique commence à se développer, même si bien évidemment c'est un genre qui avait commencé beaucoup plus tôt, dès le XVIe siècle, mais qui, au XVIIIe siècle, alors prend de très nombreuses manifestations, soit artistiques, soit plus techniques. Je pense évidemment à toutes les cires anatomiques qui sont une spécialité, notamment de l'école de Florence à l'époque, où les représentations artistiques comme celle de Houdon, il y en a plusieurs de ce type. Autre caractéristique de cette époque, c'est les animaux-machines peut-être, c'est-à-dire c'est l'incorporation dans des dispositifs matériels de cette idée cartésienne finalement que la vie, eh bien, c'est un dispositif mécanique. Alors Vaucanson est bien évidemment le héros de ce geste des automates, mais le genre connaît au XVIIIe siècle un développement absolument sans précédent. Par exemple, ces automates de Jacques Edros qui sont de 1774, qui sont bien conservés et qui témoignent de la capacité que des images ont de reproduire de façon mécanique la vie dans tous ses aspects. Finalement, dernière période, c'est le XIXe siècle, qu'on pourrait appeler le monde physique en soi et pour soi. C'est l'émergence de ce que j'ai appelé une physicalité autoréférentielle. L'intériorité et la vie deviennent réduites à des paramètres physiques. On passe de la représentation à la monstration, à la figuration de l'apparaître, et l'idéal, ou l'idée même d'un modèle de la chose représentée disparaît pour laisser place à un monde devenu physique de part en part. C'est aussi la période de la naissance de la photographie. Donc là, je ne vais pas vous donner l'image, vous voyez très bien, sauf peut-être celle d'un savant qui a été professeur dans cette maison, qui est Marais. Hein, c'est la décomposition du mouvement d'un sceau, c'est-à-dire la capacité de représenter avec le plus d'exactitude possible les images physiques de la vie. Alors, comparer figuration animique et figuration naturaliste permet de mieux souligner leur contraste. Dans les deux ontologies, finalement, il s'agit de donner à voir une intériorité, mais avec des moyens fort différents, puisque le champ des entités auxquelles on prête une intentionnalité agissante n'a pas la même extension. Finalement, l'animisme ne se préoccupe guère de figurer l'intériorité des humains. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, elle va de soi, comme archétype de toute intériorité. C'est la source de toute intériorité. Et l'animisme s'attache donc plutôt à rendre visible l'intériorité des non-humains sous la forme d'attributs humains reconnaissables, généralement un visage. À l'inverse, le naturalisme réserve l'intériorité aux seuls humains et va donc figurer cette intériorité en tant que propriété générale d'une espèce et en tant aussi qu'indice de la singularité d'une personne, de chaque personne, par le biais de la particularisation des physionomies, notamment du regard. Le traitement de la physicalité est plus dissemblable encore dans les deux modes de figuration, puisque l'animisme rend visible les attributs physiques au moyen desquels chaque espèce d'existence se distingue des autres, mais sans qu'il y ait nulle uniformité des codes formels employés pour ce faire, sans qu'il n'y ait souci de ressemblance mimétique, dans certains cas bien sûr, on l'a vu pour les animaux dans le monde arctique, sans qu'il y ait non plus souci de juxtaposition des figurations au sens d'une imitation de nature, c'est-à-dire vouloir reproduire un morceau, par exemple, d'environnement. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans l'animisme, chaque classe d'existants attentionnels possède un point de vue légitime sur le monde, que ce soit un humain, un phoque, un caribou ou un toucan. Et de ce point de vue, il n'existe donc aucune position privilégiée à partir de laquelle une uniformisation totalisatrice de la représentation pourrait être mise en œuvre. D'où, évidemment, l'absence de toute figuration paysagère dans l'animisme, parce qu'il faudrait représenter des paysages qui seraient propres à chacun des environnements de chacune des espèces personnes dont on s'attache à décrire le paysage. C'est le contraire qui se passe, évidemment, avec le naturalisme. La mise en évidence des continuités physiques exige en effet que les existants soient dépeints en grand nombre. Et on le voit bien, par exemple, avec cette peinture de l'atelier de Saint-Joseph par Campin, et avec des techniques semblables, au sein d'un espace homogène, où chacun de ces existants occupe une position qui peut être rationnellement connectée à celle des autres. D'où le fait que le paysage, la nature morte, évidemment la perspective, les différents types de perspectives, et finalement la perspective monofocale, sont les expressions emblématiques de la peinture moderne, moderne au sens de celle qui naît à la Renaissance, et ce qui fait sa radicale nouveauté. Autrement dit, tandis que l'animisme objective des subjectivités en donnant à voir comment elles sont incorporées, dans des animaux en général ou dans des esprits animaux, le naturalisme parvient à rendre invisible le mécanisme au moyen duquel sont subjectivées les objectivités qu'il dépeint, et ce mécanisme, c'est évidemment la perspective comme un point de vue arbitraire. Mais le fait que ce soit un point de vue arbitraire est déguisé, en tout cas rendu implicite. Donc, en outre, naturalisme et animisme se distinguent dans le rapport qu'ils établissent entre le degré d'iconicité et le type d'agence de ce qu'il figure. Le souci de réalisme qui caractérise la peinture moderne dès ses origines se traduit par le désir d'inclure dans l'image le plus grand nombre de qualités inhérentes au prototype. Avec ce résultat, un peu paradoxal, que plus l'image est ressemblante, plus en fait elle se présente comme une imitation. Et elle attire donc l'attention, non seulement sur ce qui est représenté, mais peut-être avant tout et surtout sur la dextérité du peintre, c'est-à-dire sur le rôle prépondérant de son agence. Par contraste, l'animisme paraît relativement indifférent à la ressemblance, encore une fois relativement, puisqu'on l'a vu dans certaines représentations animales, on a une très grande fidélité au modèle, et c'est, je crois, le reflet d'une attitude qui voit dans les images, non pas des copies du réel, mais des sortes de répliques incorporées du prototype, qui est généralement un esprit ou un animal-esprit, réplique qui est dotée donc à ce titre d'une agence aussi puissante que le prototype. Donc, à la différence du cas naturaliste, c'est parce que l'image n'est pas vraiment mimétique que son agence prédomine sur celle de l'humain, le plus souvent anonyme, qu'il a confectionné. Je vois qu'il est déjà 3 heures et je m'aperçois que je n'ai fait que la moitié de ce que j'avais prévu. Enfin, j'ai perdu l'habitude de faire des cours à l'évidence pendant cette année. Donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais poursuivre la prochaine fois en donnant une idée des deux autres, mais plus rapide, des deux autres modes de figuration, parce que je vais consacrer en fait l'année à plus particulièrement à la figuration totémique et à la figuration naturaliste. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.